Habemus Papam.
À la mort de Jules II, en 1513, c'est un Florentin, Jean de Médicis, qui monte sur le trône de Saint-Pierre, sous le nom de Léon X. Fils de Laurent le Magnifique, Jean de Médicis a bénéficié dans son enfance d'un milieu culturel exceptionnel, comme nous l'explique Franck Labrasca, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université François Rabelais de Tours.
Jean de Médicis, donc le futur Léon X, va être élevé dans un milieu culturel extrêmement brillant. Il a eu pour maître, et il a fréquenté en tous les cas, tous les grands intellectuels de la cour de Laurent le Magnifique, évidemment agrémenté par des fêtes, par des chasses, par des carnavals, par des bals costumés, enfin tout ce qu'on imagine, disons, lié à cette période extrêmement florissante de la filiation florentine. Mais évidemment, un milieu, on le comprend bien, qui est assez peu propice à la spiritualité, au recueillement, au fond, à ce qu'on pourrait attendre, au fond, de personnages qui consacrent leur vie à la religion, qui consacrent leur vie à Dieu.
Très tôt, Jean de Médicis avait pourtant été destiné aux plus hautes fonctions de l'Église.
Laurent le Magnifique, qui évidemment était un politique extrêmement avisé, a tout de suite poussé son fils Jean dans la carrière ecclésiastique. Il y a même des choses, des données qui peuvent même être choquantes, en tous les cas pour nous aujourd'hui. Par exemple, il l'a fait entrer dans les ordres mineurs à l'âge de 8 ans. Il n'avait que 13 ans quand le pape de l'époque, Innocent VIII, lui avait promis le chapeau de cardinal. Donc vous voyez, c'est en quelque sorte un héritier, c'est-à-dire quelqu'un qui est tombé dedans dès sa petite enfance.
Mais le monde bascule pour Jean de Médicis à 17 ans, à la mort de son père, et surtout lorsque, 2 ans plus tard, les Médicis sont en exil.
C'est là que Jean de Médicis, donc, va faire preuve de toute son habileté, parce que, par son activité diplomatique, il va préparer le retour des Médicis à Florence. Et ce retour des Médicis à Florence va se produire en 1512, c'est-à-dire l'année qui précède l'élection de Léon X à la papauté. Donc, une fois élu à la papauté, Léon X va continuer cette politique sage et avisée en faveur de sa propre famille, de la restauration, surtout de la dynastie à laquelle il appartient. Donc, Léon X est à Rome, mais en même temps, il gère en quelque sorte, il organise, il coordonne le retour des Médicis à Florence et leur reprise en main du pouvoir.
Ses talents politiques, Léon X va également en faire usage dans ses relations avec la France.
On peut remarquer l'habileté politique de Léon X qui stipule en 1516, donc l'année d'après Marignan, un concordat avec François Ier, dans lequel il laisse à François Ier une des revendications qui était depuis longtemps une revendication des rois de France, c'est-à-dire le fait d'avoir un certain contrôle sur la nomination des évêques du royaume. Et là, on voit l'habileté de Léon X, justement, qui comprend que l'astre montant de François Ier exige qu'on fasse certaines concessions sur ce point, et c'est ces concessions qui sont faites avec le Concordat de Bologne.
Parallèlement, le nouveau pape ne renie pas ses origines.
À Rome, au fond, Léon X continue un petit peu la tradition qui était la tradition familiale, c'est-à-dire la tradition des fêtes, la tradition de la protection des lettres et des arts. C'est quand même lui qui fait nommer comme cardinal un des plus grands personnages de la société littéraire du temps, Pietro Bembo. Le fait que ce Bembo ait été nommé cardinal montre bien à quel point les préoccupations d'ordre littéraire, les préoccupations d'ordre culturel qui avaient été, au fond, le milieu dans lequel il avait été bercé dès sa plus tendre enfance, continue en quelque sorte à le préoccuper quand il accède à cette haute charge. Un autre exemple, c'est que c'est lui qui a fait venir aussi Raphaël à Rome pour achever les fameuses stances de la chapelle Sixtine du Vatican. Donc là aussi, un grand rôle de mécène en ce qui concerne les arts. Il avait un goût aussi, ce qui est un petit peu curieux pour un pape, pour le théâtre. Un de ses secrétaires était Bernard de Bibbiena, et qui est l'auteur d'une des plus belles comédies, une des comédies les plus drôles en langue italienne. Mais alors, ce qui est très surprenant, c'est cette comédie qui est un peu grivoise, selon l'usage du temps. Et cette pièce, qui s'appelle La Calandria, qui est d'ailleurs très belle, est représentée au Vatican. Vous voyez, ça, c'est un peu surprenant, parce que, évidemment, normalement, le théâtre, les acteurs étaient condamnés par l'Église pour des raisons morales, pour des raisons théologiques, et peut être un petit peu peu, enfin il peut être même très étonnant d'ailleurs, pas un petit peu, de voir au fond cette faveur dont a joui au fond la Renaissance théâtrale à la cour de Léon X. Il était très friand de cela, il était très friand des fêtes. Les chroniqueurs de l'époque rapportent évidemment parfois dans une intention un petit peu maligne, hein, pour un petit peu au fond critiquer la papauté, rapportent au fond le caractère somptueux des fêtes qui étaient données au Vatican.
Et finalement, Léon X va passer à côté des premiers signes d'une des crises les plus importantes de l'Église.
C'est sous son règne que s'est produit et que se sont produites les premières manifestations de la réforme protestante, puisque c'est en 1517 que Martin Luther, donc ce moine de l'ordre augustin, a placardé sur le portail de l'église de Wittenberg ces fameuses thèses qui, évidemment, mettaient en cause d'abord le caractère trop temporel de la papauté, la pratique des indulgences, et puis ensuite, évidemment, ça ira beaucoup plus loin. De là naîtra cette déchirure qui dure encore, d'ailleurs, dans le manteau de l'église, comme on disait, la réforme protestante. Alors, le reproche qu'on fait à Léon X, c'est d'avoir été complètement sourd à cette manifestation. C'est-à-dire que certains pensent, certains historiens, certains théologiens pensent que s'il s'était préoccupé davantage de ce mouvement de révolte donc, qui se produisait en Allemagne, peut-être qu'il aurait pu en limiter la portée, y compris en faisant peut-être certaines concessions ou en prenant en compte des préoccupations chez les chrétiens de l'époque. Je pense que c'est un reproche infondé. En 1517, c'était très, très difficile d'évaluer ces choses-là. C'est d'autant plus injuste qu'il y a eu quand même une réaction, il y a eu une bulle qui a été, comment dirais-je, éditée par Léon X contre Luther. Donc il est un peu faux de dire qu'il n'y a pas eu de réaction du tout. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, peut-être que la réaction n'a pas été à la hauteur de la gravité. Mais encore une fois, il n'était pas possible, évidemment, de prévoir toute cette ampleur.
C'était Franck Labrasca, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui nous parlait de Léon X.